J'en reviens à Wycliffe, messieurs, qui est en ce moment aussi au comble de la gloire et en même temps qui commence à être fortement débiné à cause de la guerre des paysans. Lui fait un geste à ce moment-là dont la raison doit être qu'il voulait apparaître comme un réformateur sérieux et qu'il voulait avoir une vie qui fut en conformité avec ses enseignements, c'est-à-dire qu'il quitte le service de la cour. Il se sentait sans doute assez fort, ou bien il était assez fatigué, ou bien il avait un élan de générosité et d'ascétisme profond. Quoi qu'il en soit, ça lui donnait plus de temps pour faire son enseignement, mais ça lui donnait aussi beaucoup moins d'appui auprès des évêques et auprès du gouvernement, car c'est à partir de ce moment-là, semble-t-il, que Jean de Gand se détache de lui. Or, il aurait eu particulièrement besoin de l'appui de Jean de Gand, car c'est à ce moment-là qu'il commence à être le plus audacieux et le plus violent. Et donc, il se dépense en sermons et en petits écrits. Quel genre de sermons faisait-il ? Il semble avoir fait des sermons qui, même au XIVe siècle, étaient fameux pour leur ennui. Car il s'interdisait les figures de rhétorique. Il s'interdisait l'usage des paraboles de la Bible ou des petites historiettes des saints. Il s'interdisait tout sauf les raisonnements théologiques. Et comme il avait le débit assez monotone, cela ressemblait à un courant d'eau fraîche. Ainsi, ces sermons n'ont pas beaucoup marqué. Et on le voit à ce fait qu'il n'y a pas en Angleterre un seul manuscrit de ces sermons. Il y en a quelques-uns en Bohême qui ont été recueillis par les sectateurs de Jean Hus, mais il n'y en a pas en Angleterre. Alors, il écrivait des masses de petites brochures pour aider ses serviteurs Lollards à pénétrer les masses anglaises et aussi pour exprimer l'aigreur qu'il avait en lui. Quel genre de style avait-il ? Il avait un style théologiquement assez clair, mais littérairement assez confus, parce qu'il s'exprimait avec violence, avec aigreur et avec des répétitions constantes. Les gens qui étudiaient Wycliffe, ont de la difficulté, quelquefois, à retrouver dans ses manuscrits et à suivre exactement le raisonnement qui est assez compliqué au point de vue dialectique. Mais, comme il a répété dans ses écrits une centaine de fois, quand ce n'est pas plus, les mêmes idées, on finit par savoir exactement ce qu'il a pensé en cernant et en comparant les différents écrits. Donc, ni comme orateur, ni comme écrivain, ce n'était ni un grand orateur, ni un grand écrivain. Cependant, il avait beau être confus, terne, et se répéter constamment, il y avait en lui une certaine force âcre, amère, un peu comme la mauvaise odeur que laissent certaines bêtes sauvages, et cela était quelque chose qui portait sur certains esprits. Pour vous donner une idée de cela, je vais vous lire une épître, une partie d'une épître et la traduction d'une épître qu'il avait envoyée au Saint-Père, lequel l'avait sommé de se rendre à Rome pour y être discuté et jugé. Alors, il avait donc décidé de répondre au Saint-Père. « Je suis toujours très heureux d'exposer mes idées à qui que ce soit. » Et par-dessus tout à l'évêque de Rome. Car je suis assuré que si ma théorie est orthodoxe, il la confirmera. Et que si elle est erronée, il la redressera. Je suis sûr que comme vicaire du Christ sur la terre, l'évêque de Rome est de tous les hommes mortels, le plus attaché à la loi de l'évangile du Christ, car parmi les disciples du Christ, la majorité ne dépend pas comme lui du monde, car parmi les disciples du Christ, ce n'est pas la majorité qui fait la vérité, mais c'est le degré de perfection de ceux qui vivent en chrétien. Il faut donc sur terre repousser tout ce qui est luxe, usure, abus des biens de la terre, et il serait donc convenable que le vicaire du Christ quittât toute autorité séculière. Et que je déduis également de ces prémices qu'il faudrait qu'il se donnât comme un simple conseiller en abandonnant le pouvoir temporel aux autorités civiles et qu'il engage tout son clergé à faire de même. Donc vous voyez qu'il était invité à donner à Rome des explications, mais au lieu de ça, il donnait des leçons. Et c'était ainsi que toute sa vie, il a procédé. Wycliffe était donc chez lui, avait donc abandonné la cour, mais il n'est pas resté à Oxford. Il s'est converti, il a quitté les beaux vêtements, il a quitté le luxe, il a vécu en ascète, et en somme, il est devenu à peu près ce que sont ses théories et ce que ses principes l'obligeaient à être. Mais il vivait tout de même dans son très beau prieuré de Lutterworth, où il était tranquille, servi par assez nombreux serviteurs, et où il avait un chapelain qui disait pour lui la messe. Mais dans ce calme, il s'est alors livré à ses plus violentes attaques contre toutes les institutions qu'il voulait attaquer. On dirait que la solitude l'avait encore plus stimulé que les discussions publiques. Voici quelques-uns des sujets sur lesquels il s'est répandu. D'abord, il a attaqué la transsubstantiation. Il l'a attaqué, autrefois, il l'avait admise comme un mystère. Mais à partir de ce moment-là, il l'a attaqué, et il l'a attaqué en se servant à la fois de son réalisme philosophique et de son raisonnement logique. D'abord, le pape venait de promulguer une définition plus précise de ce qu'était la transsubstantiation. Et il semble que cela ait irrité Wycliffe, qui écrivit un essai De Eucharistia. Il rejetait la transsubstantiation comme une idée moderne et rationnellement absurde. Ce n'était, disait-il, qu'un symbole. Vous pouvez prendre ces paroles, elles sont textuelles. Symbole sacramentel, spirituel, virtuel. Voilà les adjectifs qu'il employait. Symbole sacramentel, spirituel, virtuel. Et il le comparait à la présence de l'âme dans la présence divine, il la comparait à la présence de l'âme dans le corps. Et en quelque sorte, il se rapprochait de Luther, car il ajoutait aussi que la présence divine dans l'âme tenait surtout à l'attitude et au don de l'âme, qu'une âme pure et croyante recevait la Sainte Eucharistie, alors qu'une âme impure et moins pieuse ne la recevait pas. Voici encore quelques détails sur ce sujet qui est l'un des plus importants, car c'est à partir de ce moment-là que Wycliffe apparaît comme un hérésiarque. Peut-être, comme certains l'accusent, était-il à ce moment-là pris d'une frénésie de grandeur. Et de même qu'il disait au Saint-Père très poliment que le Saint-Père n'était autre que l'Antéchrist, de même lui se considérait-il comme le véritable guide de l'Église. Mais il refusait dans la Sainte Eucharistie la présence réelle de notre Seigneur et il blasphème contre l'Eucharistie. Il disait, primo, l'hostie consacrée n'est pas le signe, elle n'en est que le signe efficace. Il ajoutait, la transsubstantiation, c'est sa cinquième proposition, la transsubstantiation, l'identification et l'impanation ne sont pas fondées dans l'Écriture. Son sixième principe était, il n'est pas conforme aux sentences des saints docteurs, et là nous entrons dans le rationnel, il n'est pas conforme aux sentences des saints docteurs d'affirmer un accident sans sujet dans l'hostie consacrée. Cet ensemble de doctrines, vous le voyez, qui disait qu'il y avait bien dans l'hostie quelque chose de divin, mais que cette chose divine était purement spirituelle, qu'elle ne se trouvait dans l'hostie que dans la mesure où le fidèle qui la recevait était lui-même un croyant et un croyant pur. Cette croyance-là a été à peu près celle de Luther. Et je dois vous le dire, avec regret, avec chagrin, elle est celle, hélas, de beaucoup de prêtres catholiques contemporains. Dans votre apostolat, vous aurez à lutter contre cette conviction qui est absolument contraire aux paroles de notre Seigneur, qui est absolument contraire à la tradition de l'Église, qui est absolument contraire au témoignage spirituel de toute âme chrétienne qui a communié en esprit de piété et de sainteté. La position de Calvin, comme je vous l'expliquerai en mars, était assez différente. Non content donc de se placer dans l'Église comme un hérésiarque d'une audace toute particulière, bien qu'il y ait déjà eu avant lui un certain nombre de tentatives, mais d'ordre plus timide, pour minimiser la Sainte Eucharistie, il attaquait également tout ce qui était prêtre. Et voici quelques-unes des expressions dont il se sert, parce qu'elles ne manquent pas d'une certaine saveur. Il voulait d'abord que tous les prêtres fussent pauvres et que tous les prêtres fussent des gens qui consacrent leur vie à prêcher. Et voyez, messieurs, comme c'est curieux. L'une des erreurs les plus graves des prêtres modernes et de toute la pratique qui résulte du deuxième conseil du Vatican, du deuxième concile du Vatican, c'est résumé dans cette formule, l'apostolat de la parole. Pour beaucoup de jeunes prêtres modernes, dans la mesure où il en reste, ce qui importe, ce ne sont plus les sacrements. Il y a un profond mépris des sacrements qui est déjà chez Wycliffe. Comprenez-vous ? Le mépris des sacrements est déjà chez Wycliffe. Et pour Wycliffe, le curé d'une paroisse, par exemple, devait vadrouiller un peu partout, faisant prêchi, prêcha, prêchi, prêcha, parlant tout le temps, mais quant au sacrement, pouf, ça n'avait pas d'importance pour Wycliffe, ça n'avait pas d'importance pour les lollards qui suivaient Wycliffe. Vous voyez donc comment il y a là une perte de contact avec l'Église et avec le Christ qui a établi l'Église comme garante et mainteneuse de ses sacrements. Et à ce point de vue-là, Wycliffe a été déjà l'un des plus dangereux faux apôtres de l'époque qui prépare la Renaissance. Il attaquait donc les prêtres et il voulait que les prêtres furent pauvres et fussent ambulants. Il voulait qu'ils passassent leur temps à prêcher et il voulait que le souverain fût responsable de leurs mœurs et capable de les priver de tous leurs biens si le souverain avait des renseignements qui prouvent qu'ils étaient, eux, indignes d'enseigner, de prêcher et d'être de vrais prêtres. Vous voyez que dans tout cela, Wycliffe prenait de plus en plus des positions audacieuses. De même, dans un petit pamphlet de la même époque, il attaque le pape. Il a dit qu'il le considère comme un antéchrist, et voilà pourquoi. C'est une thèse qui était soutenue et qui a été soutenue en Angleterre assez souvent, et qui est quelquefois reprise par les modernistes. Contrairement aux évangiles, contrairement à tout ce que témoigne l'histoire de l'Église et les actes des apôtres, ils ne reconnaissent pas que l'institution du pape, remplaçant du Christ, remonte à l'évangile. Ils disent que c'est une institution qui date de l'époque de Constantin, que Constantin, à cette époque-là, étant un empereur absolu, a voulu, à la tête de l'Église, un chef absolu, et qu'il a donc fait nommer un pape. La chose est fausse. Vous célébrerez souvent la messe pour des papes martyrs qui ont été martyrs bien avant Constantin. La chose est un mensonge, mais quand on a commencé à mentir, vous n'avez qu'à regarder toutes les folies. Vous ne les voyez pas, Dieu merci pour vous, moi je les vois. On voit dans les journaux progressistes, une fois qu'on a un peu menti, peu importe de mentir beaucoup, on ment, on ment, on ment. Et Wycliffe était spécialement expert dans cette œuvre, étant donné qu'il était un théologien. Et que quand un théologien commence à dérailler, il est capable d'aller beaucoup plus loin qu'un simple laïc qui manque d'imagination et de technique. Ainsi, il se lançait donc dans une grande bataille contre le pape. Et vous voyez pourquoi, messieurs, je vous ai expliqué l'histoire de Jean sans terre, que vous avez peut-être oublié, l'histoire de 1213. Car ce que l'on trouve dans Wycliffe, c'est la réaction violente contre la présence qu'il jugeait trop lourde du pape en Angleterre, contre la mainmise du pape en Angleterre et contre les concessions que Jean sans terre et les autres Plantagenet lui avaient faites. Donc ces attaques étaient quelque chose à la fois de personnel, mais aussi représentait une attitude anglaise. Ça représentait une attitude insulaire. C'était le sentiment d'insulaire qui ne voulait pas être envahi ou être dominé chez eux par des agents du continent et des agents de l'étranger. Vous comprenez qu'il y avait là une psychologie qui pouvait être en défaveur pendant quelque temps, mais que cette psychologie était tout de même très dangereuse, car c'est celle dont va se servir Henri VIII plus tard pour faire sa réforme et pour détruire l'Église catholique d'Angleterre. Enfin, et pour conclure toutes ces négations, Wycliffe arrivait à une affirmation qui était elle aussi une sorte de négation. Pour lui, l'Église du Christ n'était faite que des prédestinés. Vous pouviez être baptisé, vous pouviez être prêtre, vous pouviez être évêque, vous pouviez être pape. Si le Christ ne vous avait pas prédestiné à aller au ciel, vous n'étiez pas membre de l'Église. C'est, vous le voyez, une attitude parfaitement hérétique et qui, elle, prépare directement les hérésies de Luther et de Calvin. Car cette conception de la prédestination qui rend en quelque sorte inutiles les œuvres, les efforts humains, sont complètement différents de la tradition que l'Église a enseignée et complètement opposées même à tous les propos de notre Seigneur Jésus-Christ qui a traité les hommes comme capables de responsabilité, capables d'accepter ou de refuser Dieu. Alors que pour Wycliffe, l'homme était impuissant et Dieu était uniquement et entièrement celui qui faisait le destin des hommes. Tout cela, vous le voyez, faisait un ensemble très imposant et très scandaleux. L'attaque contre le pape, l'attaque contre les prêtres, l'attaque contre l'Eucharistie et cette idée de prédestination transformant complètement la vision de la vie morale et de la vie spirituelle des chrétiens. Tout cela était passablement violent, mais ce qui au fond a fait le plus grand scandale, c'est une autre attaque qui a été très violente, mais qui pour nous est moins importante que toutes celles-là. Il y avait alors en Angleterre un très grand nombre de prédicateurs populaires qui circulaient en prêchant, enseignant et en répandant le culte du Saint-Sacrement. Car c'était l'une des principales caractéristiques du culte de ces prêtres ambulants. Il y avait des franciscains, il y avait des capucins, etc. Mais ils étaient tous orientés, eux, vers le respect du Saint-Sacrement, et ils enseignaient aux foules à adorer le Saint-Sacrement. C'était le grand sermon, le grand salut, la grande cérémonie. Or, à partir du moment où Wycliffe avait rompu avec l'idée traditionnelle de l'Eucharistie, Wycliffe a rompu avec les ordres mendiants. Il a rompu avec eux alors qu'auparavant, il avait été assez favorable aux ordres mendiants. Il les préférait aux prêtres, il les préférait aux curés stables, et il les opposait souvent dans ses sermons. Donc, jusqu'alors, les prêtres mendiants l'avaient assez bien vu. Mais quand il a commencé à les insulter sur un ton qui était outrageant, ils ont répandu, et dans toute l'Angleterre, ils ont commencé à faire une propagande contre lui, propagande qui était d'autant plus violente que lui était dans son trou, dans son coin, ne pouvait pas répondre, et que les évêques anglais en avaient assez de lui, et que même Jean de Gand, le duc de Lancastre, avait cessé de le soutenir. C'est à ce moment-là que l'évêque de Londres, Courtenay, devenu archevêque de Canterbury, a réuni à Blackfriars, qui est un quartier de Londres, un synode de prêtres et de théologiens, de prêtres, d'évêques et d'archevêques, et lui-même, pour juger la doctrine de Wycliffe et pour juger aussi ses fidèles. Cette réunion était une réunion très imposante. Le 17 mai 1382, 9 évêques, 16 docteurs en théologie, dont 8 mendiants, 11 docteurs en droit canon, 7 bacheliers en théologie, dont 6 mendiants, 2 bacheliers en droit canon. Vous voyez qu'il y avait là tout un ensemble de gens qui étaient renseignés, qui étaient instruits et qui pouvait étudier la doctrine de Wycliffe avec soin. Le synode a résumé la doctrine de Wycliffe en 24 conclusions qui ont été déclarées hérétiques et erronées. Le travail était fait avec soin et semble avoir été fait sans passion. Les choses étaient exactes. Les membres du synode avaient puisé dans les innombrables ouvrages de Wycliffe qu'ils possédaient et donc, c'était une condamnation extrêmement impressionnante. Seulement, comme il se produisit un tremblement de terre pendant ce synode, les amis de Wycliffe ont dit « C'est Dieu qui blâme ces misérables de toucher à notre ami. » Enfin, malgré le tremblement de terre, Wycliffe était bien secoué, lui aussi. D'autant plus que ces gens envoyèrent à Oxford une lettre très forte obligeant Oxford à cesser tout enseignement des œuvres de Wycliffe et à abandonner les disciples de Wycliffe. Ils firent même le procès des principaux disciples de Wycliffe, nous reprendrons ça tout à l'heure, je m'attache au chef lui-même, à Wycliffe. Dans ces conditions, vous le voyez, Wycliffe était très seul. Wycliffe était très solitaire. Il était à Lutterworth, dans sa paroisse, évidemment assez confortable, mais tout de même très seul, et il ne lui restait qu'un seul disciple, John Purvey, P-U-R-V-E-Y, P-U-R-V-E-Y, qui était un homme de valeur, du reste. Pour vous montrer la popularité de Wycliffe, je vais vous lire des petits vers de l'époque qui sont assez drôles, et je pense que vous n'aurez pas besoin de traduction, étant donné votre compétence, votre érudition et la rapidité de votre esprit. Lollardi sunt disania, spine vepres ac lollia, que bastant hortum vine, his sunt doctores odi, cleri, vulgi, distidi, Johannes Belli. Johannes Belli avait été brûlé, c'était un sorte de révolté. Johannes Belli hoc docuit, quando morti succubuit, monstrans suicli familiam, causam brigae primaria. Vous pigez? 1, 2, 3, vous pigez? Non. Traduction. Les lollards sont de la mauvaise graine, des épines, des chardons et des choses des haies. C'est eux qui gâchent le jardin sacré. Ils sont les origines de la haine Ils attaquent les clercs et ils créent la dissension partout. C'est ce que nous a montré Jean Ball quand il a été tué. Quand il a été tué à cause de sa méchanceté. Il a montré ce que vaut la famille de Wycliffe, qui est la cause de tous nos ennuis. Donc, les vers sont très mauvais, mais ils sont drôles et populaires. Donc, on commençait à l'accuser dans le clergé, chez les nobles et un peu dans le populo, où on commençait à être fatigué de troubles, puisque les moissons étaient bonnes, les cochons allaient bien et les moutons se portaient bien. Par conséquent, le populo était content et aurait envie de la paix et n'avait pas envie de Wycliffe qui était tout doucement en train de mourir dans son presbytère. Wycliffe se consacrait à écrire. Il était à ce moment de la vieillesse, messieurs, où les gens ne peuvent plus penser, mais ils ont besoin de s'agiter. Et alors il faisait une masse de petits écrits sur toutes sortes de sujets, des petits écrits de 8, 10, 15 pages qu'il répandait. Il avait des scribes qui les copiaient, qu'il donnait à ses lollards à répandre, mais qui en réalité étaient simplement le rabâchage moins exact, moins intéressant de tout ce qu'il avait dit dans ses ouvrages précédents et de tout ce qu'il avait enseigné à Oxford. Pourquoi Courtenay, qui était un homme assez dur, comme vous le verrez tout à l'heure, ne l'a-t-il pas poursuivi? Parce que Courtenay était archevêque de Canterbury, était très puissant et pouvait beaucoup. Mais il semble, et vous verrez cela arriver, que Courtenay fut un archevêque plein de bon sens et plein d'une certaine humanité. Et que devant la décadence physiologique de Wycliffe, qui avait eu déjà une attaque, qui venait d'avoir une attaque, et qui était mal portant, devant son discrédit montant, Courtenay ne voulait pas accabler ce vieillard qu'il risquait de rendre plus populaire s'il avait été le pourchasser jusque chez lui. Il se contentait de chasser graduellement ses fidèles d'Oxford et de nettoyer le pays de l'influence de Wycliffe sans s'attaquer sur lui. Ainsi, le vieillard restait dans son coin, rance. C'est le moment où il écrit une petite œuvre qui s'appelle « Des blasphémias ». Et pour que ce qu'il écrivait eût plus de portée, il cesse d'écrire en latin pour écrire dans l'anglais de l'époque, afin que ses œuvres, affichées dans les carrefours par les lollards, fussent lues plus facilement par ceux du peuple qui savaient lire. Il n'y en avait pas tant que ça. De plus en plus malade et de plus en plus seul, il commence pourtant à s'intéresser à une œuvre qui a eu un immense succès. Il n'y avait pas à ce moment-là en Angleterre de copies de la Vulgate en grand nombre. Et les copies qu'il y avait étaient mauvaises, étaient mal copiées et étaient inexactes. Et il n'y avait pas encore de Bible anglaise. Wycliffe, et là il a eu en somme raison, a commencé avec ses meilleurs disciples à faire une Bible anglaise qui a été surtout l'œuvre de ses disciples. Ces trois disciples dont je vais vous donner le nom et qui ont été là des auteurs qui ont rendu, il faut l'avouer, il faut le dire, il faut le proclamer, un certain service à la catholicité anglaise. Le premier s'appelait Nicolas de Hereford. Il travaillait vite, mais il travaillait mal. Le second s'appelait Joel Hall. C'était un homme intelligent et il travaillait avec soin. Et le troisième s'appelait John Turbin. Et c'était un homme très intelligent qui travaillait très bien et qui était fidèle, il faut dire, il n'a jamais lâché. Il n'a jamais lâché Wycliffe, juste même après la mort de Wycliffe, il est devenu le chef des Lollards. Nicolas de Hereford a traduit la première partie de la Bible et s'est arrêté à Baruch. Mais à ce moment-là, il a eu des ennuis parce que Courtenay le poursuivait et il a cessé son travail, qui a été continué par Horn et revu entièrement par Purvey, qui a fini par en faire un bon travail. À cette époque-là, le populo-anglais ne parlait plus du tout français. À la cour même, après 1400, l'anglais devient à la mode et remplace le français qui était d'usage courant au début du XIVe siècle, dans toutes les classes et toujours à la cour. C'est fini. Maintenant, le peuple parle entièrement anglais, le moyen anglais, et même la cour se met à parler anglais. Donc cette Bible a un très grand succès. Elle bouche un trou et elle permet de lire la Bible. Seulement, naturellement, le nombre des gens qui lisaient n'était pas énorme. Et comme c'était un gros ouvrage et qu'il fallait le copier à la main, cette Bible coûtait extrêmement cher pour l'époque. Par conséquent, elle ne pouvait être utilisée que par les gens riches et ou bien les gens très cultivés qui faisaient un sacrifice d'argent pour la posséder. Mais songez qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui la préfèrent à la Bible qui a été faite au XVIe siècle, car il faut dire que cette Bible de Wycliffe est très bien, enfin bien traduite sur la Vulgate, naturellement, pas sur les originaux. Elle était bien traduite sur la Vulgate et sans aucun commentaire hérésiarque ou hérétique ou tendancieux. C'est les trois hommes qui l'ont traduit dans l'esprit exactement de la tradition. Par conséquent, c'est une Bible qui, à l'heure actuelle, pourrait encore être utilisée, sauf que aucun des auteurs n'a pu faire des vérifications autres que de copier avec exactitude le texte de la Vulgate. Au milieu de tout ça, Wycliffe vieillissait. Et le 17 décembre 1384, en allant dans son église pour écouter la messe, il est mort. Il était à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, très seul. Il ne lui restait auprès de lui que Purvey. Et sa mort ne fit pas un très grand bruit. Comme il n'avait pas été excommunié et qu'il semblait désormais être peu dangereux, et on a pu l'enterrer tranquillement. La maladie l'avait mis à l'écart de tout et en même temps, la maladie le protégea de sanctions. Mais le pauvre homme, enfin le pauvre homme, ça lui était égal au fond, fut déterré en 1411 et ses os, car il n'en restait plus beaucoup, jetés dans la rivière parce qu'à ce moment-là, les évêques anglais s'étaient décidés à prendre des sanctions graves contre sa doctrine, contre ses fidèles, et qu'on ne voulait pas que sa tombe devint un lieu de pèlerinage. Par conséquent, on s'est livré à cette cérémonie macabre et assez pénible de le déterrer et de le jeter dans la rivière. Comme homme, il ne laissait pas une trace très profonde, car c'était un mauvais prédicateur, et c'était un homme qui n'avait pas de chaleur humaine. Mais comme professeur, il laissait une trace, parce que, et ça arrive très souvent, l'homme qui prêchait médiocrement enseignait bien. Et à Oxford, au moins pendant 2 siècles, sa tradition s'est maintenue, plus ou moins en cachette, quelquefois plus évidente, d'autres fois moins évidente, mais elle s'est maintenue et il y a eu un courant constant d'esprit Wycliffe dans cette grande université qui elle-même avait un rayonnement. Et c'est cela qui explique que Wycliffe ait été, comme vous allons le voir tout à l'heure, l'homme qui a suscité, sinon du moins le hussisme. La théorie hussite et le mouvement hussite s'est appuyé sur les œuvres de Wycliffe et sur les idées de Wycliffe, alors qu'en Angleterre, la chose était à peu près finie. Wycliffe étant mort, Mais ses idées n'étaient pas mortes. Courtenay avait donc réuni à Blackfriars un concile pour juger l'œuvre et juger les disciples de Wycliffe. Les principaux étaient Ashton, Hereford, Rippington et Purvey. Purvey n'est pas venu, il s'est garé. Ashton, lui, a voulu faire l'idiot. Il a dit qu'il ne parlerait pas latin, qu'il ne savait pas le latin, qu'il ne parlerait qu'anglais. Enfin, il s'est si maladroitement défendu qu'en fin de compte, il a été condamné. Hereford, dont je vous ai déjà parlé, qui était un rédacteur de la Bible, a cru, lui, qu'il serait moins en danger à Rome. Et alors que Wycliffe et les Lollards s'acharnaient contre le pape, Hereford a été se réfugier à Rome et demandé à être jugé à Rome. Mais à Rome, on était très renseigné sur Wycliffe, et Hereford a été mis convenablement en prison. Mais les prisons romaines à cette époque-là, même le château Saint-Ange où il n'était pas, n'était pas tellement fermé qu'on ne pût pas en sortir. Et Wycliffe a fui Rome, il est rentré en Angleterre où il a été l'un des chefs des Lollards. Rippington, lui, était un jeune homme un peu plus jeune, très sincère, qui s'est bien défendu et qui, après une longue discussion avec Courtenay, a abjuré les idées de Wycliffe et est devenu non seulement un très bon prêtre, mais il est devenu un bon évêque. Il a été évêque de Lincoln, qui est un des grands évêchés en Angleterre. Vous voyez donc que parmi les Lollards, certains ont reconnu l'erreur et se sont séparés de leur patron, car l'influence personnelle de Wycliffe, qui avait une personnalité très forte, avait entraîné avec lui des gens qui, au fond, n'avaient pas entièrement réfléchi à l'entreprise dans laquelle ils étaient lancés. Ce fut ensuite qu'ils s'en sont rendus compte, et c'est donc en les mettant en face de cela que Courtenay a pu les ramener dans l'Église. Courtenay, messieurs, a agi avec beaucoup d'intelligence. J'insiste un peu là-dessus, car nous allons être tôt ou tard dans une situation analogue. Courtenay a été très dur pour ceux qui s'obstinaient dans l'erreur. Il a été très dur pour leurs idées et il a été assez dur pour leur personne. Mais pendant toutes les discussions, Courtenay n'a jamais cessé de lancer des cordes pour que les autres puissent s'accrocher à l'idée du pardon ou à l'idée d'une conciliation. Dans les discussions qu'on a entre prêtres, dans les discussions qu'on a entre fidèles, c'est une des choses les plus indispensables de ne point faire comme les laïcs qui, plus ils discutent, plus ils s'outragent et se séparent les uns des autres, mais de tâcher au cours de la discussion de créer une relation humaine et spirituelle qui, même dans l'opposition des idées, puisse, en fin de compte, arriver à rapprocher des âmes qui sont trop tentés de se séparer pour des motifs humains. Et c'est cela que Courtenay a fait, et c'est cela dont il faut le louer, car c'est probablement lui qui a réussi à empêcher en Angleterre une diffusion trop générale des théories de Wycliffe. En effet, nous viendrons sur l'œuvre des Lollards, mais on peut dire que Wycliffe a échoué. Quand on compare la réussite pitoyable de Wycliffe avec celle des théologiens hérétiques de Henri VIII, on est étonné de voir la différence. Cette différence tient, voyez-vous, au fait qu'il y avait encore en Angleterre une grande foi catholique appuyée sur l'Eucharistie, et qu'en particulier les ordres mendiants, qui n'étaient pas tous bons, où les sujets n'étaient pas tous bons, mais où beaucoup étaient encore bons, maintenaient dans la foule ce sens, ce goût, ce besoin de la Sainte Eucharistie. Mais en même temps, il faut aussi dire que les hautes classes n'ont pas mordu à l'hérésie, alors qu'au XVIe siècle, ils ont mordu. Les hautes classes n'ont pas mordu à l'hérésie, primo, parce que ces braves, ils étaient braves, Plantagenet était au fond des aventuriers et que comme aventurier, il n'osait pas s'engager dans l'aventure trop dangereuse pour eux d'une révolte contre Rome. Si vous comparez la situation des Plantagenets à cette époque-là avec la situation des Tudors, elle est complètement différente. Les Tudors sont arrivés au pouvoir en 1485, vous le savez si bien, après que l'aristocratie anglaise se fut massacrée pendant 30 ans dans la guerre des Deux Roses. La guerre des Deux Roses a amené une diminution d'influence et de nombre de l'aristocratie anglaise qui a permis aux Tudors à être les seuls rois absolus que l'Angleterre ait eu. Et un roi absolu en Angleterre pouvait lutter contre l'Église. Mais un roi comme les Plantagenet, qui avait à ce moment-là une noblesse difficile, presque aussi puissante qu'eux, très orgueilleuse et dans l'ensemble encore croyante, bien qu'elle fût souvent, qu'elle se conduisit très mal. Une royauté comme les Plantagenets, qui était très divisée contre elle-même, et je vais vous en donner un exemple tragique, ne pouvait pas encore risquer de se lancer dans une lutte contre Rome, où il y avait encore de bons évêques, où il y avait encore un squelette de foi très solide. L'exemple que je vais vous donner est épouvantable, mais ça ne fait rien, je vous le donne. Le roi Richard II était le fils du prince noir. C'était un homme charmant, léger, gentil, intelligent. Mais il était léger. Et quand les choses ont commencé à mal marcher, il a commencé à mettre en prison des nobles, des bourgeois, etc. Il a commencé à prendre l'argent de celui-ci et de celui-là. Il a commencé à devenir un souverain dictatorial. Si bien que la nation, menée par son oncle, le duc de Lancastre, et la famille Lancastre, se sont soulevés contre lui. Et que en 1399, il a dû abdiquer pour céder la place à son neveu Henri IV, d'Angleterre, qui a régné de 1394 à 1412. Or, on l'a mis en prison. Et là, cet homme qui était l'oncle du roi, on l'a laissé enchaîner presque pas vêtu et sans lui donner de nourriture, ce qui fait qu'il est mort de faim. Comme procédé interfamilial, ce n'est pas une chose que je vous recommande. Il vaut mieux, si on a envie, de se débarrasser d'un cousin, le coincer entre deux portes ou l'écraser avec son auto. C'est beaucoup plus humain. Car imaginez l'agonie de cet homme qui n'est pas mort tout de suite, il était encore fort, dans cette prison, seul, dans le froid, nu, sans pouvoir boire ni manger. C'était l'Angleterre de cette époque, mais elle avait au moins une qualité, elle a voulu rester chrétienne. Pendant ce temps-là, les Lollards continuaient dans la campagne à crier et à plaider. Les Lollards étaient de plusieurs espèces et eux ont eu une importance réelle dans la vie nationale anglaise. Il y avait d'abord un certain nombre de prêtres que Wycliffe avait envoyés et qui étaient les pauvres prêcheurs. Il semble qu'il ait commencé à les envoyer à partir de 1377. Comment les choisissait-il? Eh bien, messieurs, voilà comment il les choisissait. Je vous donne ça en latin parce que ça a plus de ça. Il trouvait qu'ils fussent idiotes et simples. C'est ce qu'il faut que je traduise. De façon à être plus près du peuple et à enseigner plus simplement ce que lui avait pensé, voulu, etc. Donc vous le voyez, il voulait que ses prêtres se mirent au ras du sol. Il voulait que de droite à gauche, ils allassent dans les villages, dans les carrefours, et ils fussent véritablement des tribuns populaires. Naturellement, alors, en dessous d'eux, il y avait une sorte de masse qui fermentait et où les femmes étaient les plus excitées. Tout ce monde-là était vêtu de robes rousses, pieds nus, allait à droite et à gauche, prêchait. C'était la partie populaire, et cette partie populaire était assez nombreuse et était combattue naturellement par les ordres mendiants, mais elle savait se combattre aussi. Ça dépendait des régions. Certaines régions étaient plus lolard, d'autres étaient restées plus pieuses. Mais il y eut tout de même, il faut le dire, un assez grand nombre de gens du peuple qui furent impressionnés par cette prédication, sur laquelle nous reviendrons. Il y avait deux autres sortes de lolards. Il y avait le lolard parlementaire. Les membres du Parlement, qui avaient trouvé de l'argent, avaient lu avec intérêt les œuvres de Wycliffe. Quiconque a à faire un budget, messieurs, est toujours content de trouver des suggestions. Et les suggestions de Wycliffe, qui leur disait que le mieux était de prendre dans la poche des prêtres et des évêques, leur paraissaient extrêmement judicieuses à beaucoup de membres du Parlement anglais. C'est pour ça que, au Parlement, les théories de Wycliffe ont souvent été reprises, sous une forme ou sous une autre, mais enfin avec cet esprit de nationalisme anti-romain qui grandissait en Angleterre et qui a permis le succès de Henri VIII, elles étaient reprises et donc il y avait là, Wycliffe avait donné une arme très dangereuse à certains nobles et à certains commoners anti-romains. Mais aussi il avait donné une arme à beaucoup de jeunes gens d'Oxford. L'université d'Oxford avait été purgée. Le chancelier Riggle lui-même, R-I-G-G-E, avait dû renoncer au Wycliffe. Il n'était pas tellement chaud. Et un autre qui s'appelait William Balliol, B-D-E-L-L-I-O-L, B-E-L-L-I-O-L, avait lui alors pris des sanctions et il avait cherché à chasser les professeurs et les maîtres et les surveillants et les étudiants les plus excités qui continuaient la théorie de Wycliffe. Mais ceci n'avait pas donné un résultat complet, car vous savez que dans les universités, il y a beaucoup de moyens de se cacher, il y a beaucoup de moyens de dissimuler, il y a des trucs, il y a des mensonges, et il y a même quelquefois des vérités doubles. Par conséquent, Oxford était resté un endroit où rôdait encore la doctrine de Wycliffe et où elle exerçait encore une influence extrêmement tangible pendant toute cette période-là. Mais Courtenay était assez vigoureux et il était assez puissant à partir de ce moment-là pour agir, et il a agi. Il a agi en organisant la chasse au lolard. Il a réussi à obtenir du Parlement que l'on vote une loi. À ce moment-là, l'Angleterre n'avait pas l'Inquisition. Que l'on vote une loi donnant aux évêques, aux archevêques et aux évêques, le droit de pourchasser et d'emprisonner les lolards qui devaient être jugés par des juges civils. Puis il a demandé aux prêtres de faire un examen très complet de la population de leur paroisse. Alors que les lolards criaient très fort, c'était assez facile de les trouver, parce qu'ils prêchaient l'évangile, ils attaquaient l'église visible, ils attaquaient la hiérarchie, ils en arrivaient même à attaquer tous les prêtres, toute la hiérarchie de l'Église, qu'à la fin de sa vie, Wycliffe avait aussi attaqué le pape, archevêque, évêque, chanoine et curé, et simple prêtre. Beaucoup de lolards en étaient arrivés à une conception du christianisme qui établissait le contact simple, direct, entre le fidèle et le Christ sans aucun intermédiaire. Vous voyez que nous sommes déjà dans la formule, dans le courant du pré-protestantisme. Ils allaient donc de ville en ville et ils dépouillait les églises, il prêchait la pauvreté des prêtres, et quand il pouvait, il les volait. Et le plus fameux d'entre eux fut un certain William Swinburne, S-W-I-N-D-E-R-B-Y. C'était un prêtre extrêmement éloquent et tout à fait instable, qui était révolté par la corruption et la mauvaise tenue de beaucoup d'évêques, naturellement. Mais lui manquait également de mesures. Et s'il les attaquait parce qu'il manquait d'intelligence et qu'il était mauvais prêtre, lui était très imprudent parce qu'il s'attaquait non seulement au pape, aux évêques, aux prêtres, mais il s'en prenait aux femmes. Et c'est dangereux de s'en prendre aux femmes, vous savez. Les femmes sont plus nombreuses qu'on ne le croit. Et il s'en prenait également aux marchands. Or, les marchands sont peut-être moins nombreux que les femmes, mais ils ont l'argent. En un mot, il s'en prenait à peu près contre toutes les classes de la société qui, en effet, avaient chacune son défaut et son imperfection. Là, dans certains endroits, il se faisait une réputation, dans d'autres, il semblait odieux. Et enfin, il menaçait la fin du monde, tout de même, on réussit à le museler. Mais il y eut de grandes manifestations des gens de Wycliffe. En 1395, ils sont venus manifester devant le Parlement pour obtenir une plus grande latitude. Et ils se sont livrés à des révoltes publiques, et même à un moment, ils ont manqué prendre Londres, étant armés et formant une sorte de régiment très violent. En un mot, on commençait à être un peu fatigué d'eux. Dans ces conditions, Courtenay est devenu de plus en plus dur. Entre de 1415 à 1428, il fit faire une suite de procès pour éliminer les chefs Lollards et pour emprisonner la foule. Après trois soulèvements, ce travail fut efficace. Le Lollardisme, graduellement, disparut d'Angleterre et vers 1500, il n'y en avait presque plus. Pourtant, il se réveilla sous les Tudors. Et au moment où Henri VIII et Édouard VI entreprirent leur politique anticléricale, et alors il y avait de nouveau des Lollards qui se mêlaient aux protestants et qui criaient, et qui houspillaient, et qui persécutaient les catholiques. Ainsi donc, le Lollardisme, vous voyez, a été un élément très important en Angleterre pour préparer la convulsion et pour préparer le schisme. Ça a été un élément très important et un élément qui a touché toutes les classes, haute classe, haut clergé, moins la bourgeoisie, mais basse classe. Et surtout, l'influence des Lollards a été énorme en Bohème. C'est la Bohème qui a maintenu la tradition Lollarde, et c'est par la Bohème que Luther a reçu les documents de Wycliffe. Il y avait beaucoup d'étudiants de Bohème qui venaient en Angleterre et qui venaient surtout à Oxford. Et ces étudiants furent extrêmement frappés par les prédications de Wycliffe et par ses ouvrages. À l'heure actuelle, le nombre des manuscrits de Wycliffe est deux ou trois fois plus grand dans les bibliothèques de Prague et de Vienne qu'il n'est à Oxford et qu'il n'est dans les bibliothèques anglaises. C'est vous dire que ces gens, rentrant chez eux, emportaient tous les manuscrits qu'ils pouvaient trouver de Wycliffe. Comme les Tchèques, à cette époque-là, ou Bohémiens, étaient déjà en guerre, et en guerre violente, contre les Allemands et le clergé allemand qu'on leur avait imposé. Ils se livraient aussi à une bataille analogue à celle de Wycliffe, contre tous les évêques allemands qui étaient riches, qui étaient le haut du pavé, et ils se livraient à une bataille contre les chanoines allemands, contre les curés allemands, et ils réclamaient un clergé pauvre, un clergé humble, un clergé beaucoup plus près d'eux et qui fut bohémien ou tchèque, si vous voulez. Huss n'avait pas, il faut le dire, accepté toutes les idées de Wycliffe. Huss était au début beaucoup plus modéré en ce sens qu'il croyait à l'Eucharistie, il respectait l'Eucharistie, et qu'il n'admettait pas l'idée de prédestination comme Wycliffe. Ainsi, il avait repris les thèses anticléricales de Wycliffe, et il n'avait pas repris ses hérésies. Mais après lui, l'Église hussite a été beaucoup plus loin que lui, et l'Église hussite a réussi à s'imposer en Bohême. Elle a réussi à prendre une place telle que malgré les empereurs Habsbourg, malgré la guerre de 30 ans, à l'heure actuelle, elle survit et elle représente, elle intègre encore la majorité des thèses de Wycliffe et elle continue à faire la guerre au catholicisme, bien que elle commence à être lasse des Russes. C'est un des drames sombres de la Bohème d'aujourd'hui. Les Russes ont persécuté les catholiques infiniment plus, puisque même Béran, qui était un évêque assez progressiste, ils l'ont mis en prison, ils l'ont persécuté. Mais ils ont persécuté les catholiques, et ils persécutent les catholiques à tel point en Bohême qu'il n'y a plus guère de culte catholique que dans les forêts. Seulement les Hussites avaient gardé une certaine liberté. Mais avec le soulèvement des dernières années, les Russes s'en sont pris aussi aux Hussites qui sont aussi persécutés, ce qui fait une sorte de rapprochement, sauf dans les cas où les Hussites continuent à trahir le christianisme pour se rapprocher des Russes et à faire des marchandages malpropres. Ainsi, le mauvais caractère de Wycliffe se prolonge chez tous ses successeurs. Et cette atmosphère aigre, hargneuse, cette atmosphère qui est absolument différente de l'ineffable bénignité du Christ et de la largeur intellectuelle des pontifes romains qui sont dignes de ce nom, cela se maintient chez certains Anglais de la Low Church qui ont gardé le culte de Wycliffe. Il y a en Angleterre une Wycliffe Society, il y a en Angleterre des Wycliffe Publications, il y a en Angleterre encore toute une sorte de culte de Wycliffe qui déforme son image pour en faire quelque chose de glorieux, alors qu'en réalité c'était un homme de talent, mais ce n'était pas un homme qui eut en lui une droiture et une pureté d'esprit telle qu'on pût l'admirer. Vous voyez maintenant, messieurs, en quoi Wycliffe a été important. C'était un savant qui a avancé des thèses audacieuses en y mettant des formes intellectuellement assez adroites. C'était en même temps un homme qui avait le sens des courants populaires anglais. Ce sont ses deux grandes qualités. Son grand défaut, c'est d'avoir été un être hargneux, qui a présenté sa doctrine par tranches successives de plus en plus violentes, à mesure que lui-même s'aigrissait davantage contre la société de son temps et contre Rome, et qui a cherché à profiter du grand schisme et de toute l'horreur de l'époque pour répandre en Angleterre la haine et le mépris de la papauté. Il a donc eu un côté assez vil et assez bas. Nous pouvons avoir une certaine pitié de lui, mais nous ne pouvons pas lui pardonner toute cette mesquinerie et cette malhonnêteté intellectuelle, en particulier la façon dont il s'est tourné contre la Sainte Eucharistie après l'avoir acceptée, et la façon dont il a poussé l'idée de ses idées principales, alors qu'elles étaient modérées et encore acceptables au début de sa vie. C'est un homme qui n'a pas su dominer sa propre intelligence. Et ceux d'entre vous, comme il y en a plusieurs dont je reconnais l'intelligence, doivent se dire que Wycliffe est un exemple très redoutable. Il faut non seulement dominer nos passions, vous le savez déjà, mais il faut dominer notre intelligence. On peut lui permettre quelques petites galipettes de ci, de là, dans l'ordre de l'ironie, mais dans l'ordre des travaux profonds, il faut la tenir entre ses mains et toujours prendre garde qu'il ne se mêle pas dans le travail de l'intelligence un ferment d'orgueil et d'amertume. Je vous remercie de votre grande patience et je viendrai vous infliger d'autres conférences au mois de mars, messieurs.